Gloire à Dieu, aujourd'hui on va continuer la série d'études qu'on a commencé les semaines antérieures. Le titre de la série c'était l'appel au ministère. Puis tout ça c'était pour nous dire que dans l'ensemble des études qu'on va voir, qu'on va couvrir, ça va être les différents ministères que tous les chrétiens peuvent s'impliquer. Premièrement, de réaliser que des ministères que Dieu nous a appelés à son service, quand tu as donné ta vie au Seigneur, c'est parce que tu as décidé de répondre à son appel qui te dit « viens à moi ». Puis quand tu viens à lui, quand que le Seigneur t'appelle et dit « viens à moi », là tu vas à lui pour y donner ta vie, pour devenir son serviteur. Puis veut, veut pas, chaque chrétien sur la terre est un serviteur de Jésus-Christ. Chaque chrétien sur la terre est un serviteur de Jésus. On est tous appelés à le servir. Peu importe qui ce qu'on est, peu importe l'âge qu'on a, peu importe notre rang social, peu importe si on est une femme, un homme, un enfant, ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui répondent à l'appel de Jésus pour être sauvé, tu deviens automatiquement à être enrôlé dans son royaume pour être un de ses serviteurs. Puis le mot ministère, que tout le monde aime employer parce que ça a l'air important, j'accomplis un ministère. Le mot ministère veut dire service. Tu es un serviteur. À partir du moment que tu commences à être un serviteur de Jésus, autrement dit, tu es dans le ministère en train de servir Jésus. Puis là, on est en train de couvrir les différents aspects où est-ce qu'on est des serviteurs. Le dernier message que j'ai amené dans cette série-là, j'ai parlé sur le ministère d'être un homme. Aujourd'hui, on va voir le ministère de la femme, d'être une femme. Puis c'est biblique. Hein, parce que le fait d'être une femme, c'est un ministère. Puis être une femme de Dieu, que ce soit une fille ou une femme de Dieu, c'est un rôle que Dieu a besoin dans son œuvre. Puis on voudrait tous être des grands évangélistes ou des grands missionnaires, partis d'un bord ou de l'autre, mais on n'est pas tous appelés à être des missionnaires, mais on est tous appelés à être des hommes et des femmes serviteurs de Dieu. Puis le sujet qu'on voit aujourd'hui, c'est le rôle et la responsabilité de la femme. Comment la femme peut être bénie dans l'œuvre de Dieu? Premièrement, ce qu'il faut avoir comme idée, c'est une vision globale du plan de Dieu. Parce que Dieu, là, il a tellement trouvé ça important qu'il y ait des femmes, qu'il y ait un ministère de femmes, que créer ce ministère-là, le deuxième ministère que créer dans cette vie, c'était ça. Le premier ministère, là, c'était l'homme, Adam. Puis après ça, il a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui. Fait qu'il a déjà créé la femme pour un ministère depuis le début de la création. La femme, c'est son ministère d'être une aide à son mari. C'est depuis le début, ça. C'est dans le plan de Dieu depuis le début de la création. Puis il y a un rôle important pour la femme à jouer. Si la femme n'aurait pas été là, Jésus n'aurait pas pu venir sur la terre. Parce que Dieu a choisi la femme pour enfanter. C'est dans sa descendance que Jésus a pu venir au monde. Parce que c'était dans son plan de créer la femme, puis que le ministère de femme, ou de mère au foyer, ou de femme en étant mariée à un homme, ou de fille, c'est aussi important qu'un ministère d'homme ou un ministère de d'autres choses. C'est important dans la vie de tout le plan de Dieu. Quand tu es une femme, dans juste la simple expression d'être une femme, là, je parle pas d'être une pasteur ou une missionnaire, ça, à bien du monde, là, aujourd'hui, c'est un peu moins pire parce qu'avec la règle de l'égalité de la femme, là, que les femmes se sont comme battues parce qu'il n'y avait aucun droit dans la société. Il n'y a même pas le droit de vote, il n'y a pas le droit de dire un mot. C'était comme écrasé, dominé à cause de notre culture. puis pas juste dans notre pays, dans beaucoup de pays, c'est comme ça. La femme, ça n'a pas d'importance ça n'avait pas d'importance dans la culture où ce qu'on devient, nous autres. C'est juste depuis une cinquantaine, 75 ans, que là, le droit de vote est venu, puis les droits de la femme ont commencé à embarquer, puis là, il y a une reconnaissance de la femme, puis là, c'est rendu que là, la femme est en train de prendre la place de l'homme. Elle remplace l'homme dans la société. On voit qu'il y a un déséquilibre. Mais il y avait quand même un déséquilibre avant, parce que Dieu n'a jamais voulu que les femmes soient écrasées comme qu'ils l'ont été. Dieu, il a créé une aide à Adam, une aide semblable à lui. C'est une personne qui était là pour l'aider, pour le seconder, pour l'accompagner, pour que l'homme puisse faire ce qu'il a à faire. Il avait besoin d'aide. Puis Dieu a créé la femme. Puis la femme, c'est un ministère important dans l'œuvre de Dieu. Puis pour une femme, le mariage, il n'est pas obligatoire. Pas, je ne dis pas que faut pas qu'elle se marie, mais c'est pas réellement une priorité selon Paul. Parce qu'il est avantageux aux yeux de Dieu de se consacrer au Seigneur, puis de s'impliquer à rechercher les choses, de servir le Seigneur en premier. Mais chacun de nous est appelé à des tâches différentes. C'est pas une obligation de te marier, mais c'est quand même un ministère que Dieu a donné à la femme de se marier. Dans 1 Corinthiens 7, Paul y en parle, puis il décrit un peu que le rôle de la femme, que le rôle de la femme est important. Puis il donne un peu son explication. Il dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 32, Paul il dit, « Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, il s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. De même, il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » On voit que dans le rôle d'une femme qui est vierge, qui n'est pas mariée, puis qu'elle reste seule, son but d'une femme, c'est de servir le Seigneur à plein temps. Aujourd'hui, on n'en voit presque pas parce que tout le monde a transgressé la parole de Dieu, les commandements de Dieu, puis ils ont tous connu des hommes avant le temps. Les hommes aussi, la plupart, ont tous connu des femmes avant le temps. Mais quand tu es une femme, puis tu n'as pas connu la sexualité, comme si tu étais un homme qui n'a pas connu la sexualité, tu peux te consacrer à l'œuvre de Dieu à 100%. C'est ça que Paul est en train de dire. Bien, il dit, si tu es capable de ne pas te marier, si tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, consacre-toi dans l'œuvre de Dieu à plein temps. Tu es une femme, puis tu peux servir, consacrer pour Dieu, puis l'homme avec peut se consacrer pour Dieu s'il est seul. Mais si il s'est marié, c'est pas un péché, ça dépend de l'appel que Dieu nous a appelé. Donc Dieu t'a appelé à devenir une femme. Puis là, tu es là pour seconder ton mari. C'est un ministère important, autant important que le ministère de l'homme qui doit faire ses choses d'homme, puis prendre son rôle d'homme à cœur, puis de servir Dieu dans les ministères que Dieu l'a appelé. Mais la femme, elle doit être là pour seconder son mari dans les ministères que son mari est impliqué. L'apôtre Paul, il connaissait quelle était l'attraction produite par le corps de la femme sur l'homme. Puis, il ramène le sujet de comment est-ce que les femmes doivent se présenter quand ils marchent en public. La Bible parle de l'habillement, puis comment est-ce que les personnes qui veulent servir Dieu, qui se sont consacrées à Dieu, comment est-ce qu'ils doivent se présenter? Parce que tu veux te consacrer au Seigneur ou tu as décidé de te marier, tu es dans le ministère de femme, mais tu as un rôle à jouer, puis tu as une manière de vivre ton rôle pour faire attention, parce qu'en étant une femme, il faut que les femmes soient bien conscientes de l'attraction physique qu'elles peuvent donner quand que les hommes les regardent. Ça, c'est pas d'hier. Ça existait il y a 2000 ans, ce phénomène-là. Ça existe encore aujourd'hui. S'il y a bien affaire pour faire tourner l'économie d'un pays aujourd'hui, le sexe, là, c'est une grosse industrie. La drogue, c'est une grosse industrie, mais le sexe, c'est une grosse industrie pour faire de l'argent, puis le monde font de l'argent avec leur corps. Ils n'ont plus de respect pour leur corps. Mais une femme de Dieu, une femme qui veut servir Dieu dans le ministère, elle doit comprendre l'importance de se présenter dans le monde d'une manière qui est correcte devant Dieu. Puis ça, on voit ça dans 1 Timothée, au chapitre 2, le verset 9 et 10. Paul nous l'explique en disant, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Fait que là, on ne parle pas des femmes pasteurs ou des femmes évangélistes. On parle juste des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est des femmes qui se sont engagées à suivre Jésus, puis ils ont confessé qu'ils veulent suivre Dieu. Bon, là, si tu veux être dans le ministère pour Dieu, dans ton ministère de femme, tu as une manière de t'habiller pour être correct dans ce monde. Faut que tu fasses attention de la manière que tu t'habilles, parce qu'il y a du monde qui te regarde, puis il y a du monde qui peut être te trouver que tu es une occasion de chute. Là, il nous dit dans ce passage-là que les femmes doivent être vêtues d'une manière décemment, ce qui est, en voulant dire, qui est d'une manière correcte, avec pudeur. Le mot pudeur, c'est le contraire de impudique. Pudeur, c'est habiller en cachant ton corps.
Sobrement,
de manière décente, avec pudeur, ça veut dire pas d'une manière provocante sexuellement.
Pas sexy.
Ça, c'est un mot qui est bien utilisé aujourd'hui par les jeunes. Puis c'est que tout le monde trouve ça important, mais beaucoup de personnes trouvent ça important d'être habillé sexy. C'est pas biblique. C'est le contraire d'être pudique. Le trois quarts du temps, quand les gens veulent s'habiller sexy, c'est toujours du linge très serré, très moulant, très décolleté, qui montre des choses, puis que, autrement dit, c'est un attentat à la pudeur. Dans ce verset-là, c'est en train de nous dire que les femmes doivent être habillées avec pudeur, puis quand ils veulent être habillés sexy, ils veulent être habillés incorrect devant Dieu. Pour attirer l'attention, pour attirer les regards, pour activer la sensualité, la sexualité des autres, puis de se faire, parce qu'ils aiment se faire regarder. Mais devant Dieu, c'est un péché. Dieu veut qu'on s'habille avec pudeur, modestie, puis c'est pas nécessaire de mettre des habits somptueux pour attirer les regards. Tout ça, là, ça ne fait qu'attiser le regard envieux, les convoitises de la chair. Les gens nous regardent les femmes bien pétards, là, bien habillées pétards, là, puis toutes maquillées, toutes les patentes. Puis les gens, ils sont attirés. C'est un aimant. Ça fait tomber dans le péché les gens qui s'imaginent tout le reste quand ils voient et en voient trop. Puis je dis pas qu'il faut s'habiller avec le capuchon puis la cagoule puis juste les yeux qui paraissent là comme dans certains pays, mais d'être habillé convenablement, c'est que tu démontres rien, puis le monde quand ils te regardent, ils sont pas attirés à aller plus loin parce que ça paraît à peau. C'est ça qui est la manière correcte d'aujourd'hui. C'est la méthode qui convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Puis si tu veux bien paraître, si tu veux bien attirer les regards, dans ce verset-là, c'est en train de te dire, revêt-toi de bonnes œuvres. Là, ils vont regarder tes bonnes œuvres, puis tu vas être attirante dans le sens que tu es une bonne personne parce que tu parles bien, tu agis bien, t'as des bonnes paroles. Là, le monde va être attiré vers toi pour le bien et non pas pour la sexualité. Puis ça, il en parle dans plusieurs versets au niveau de la sexualité, puis c'est une réalité que beaucoup de personnes ont oublié aujourd'hui. Ces versets-là, ils doivent être relus et médités. Les passions sexuelles doivent être évitées. Les jeunes doivent se marier. C'est simple. Pour la même chose, on l'a vu dans un verset, dans 1 Corinthiens 7, 2, on l'a vu aussi pour les hommes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter d'être impudique, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça veut dire, si t'as des désirs sexuels, c'est naturel, sauf c'est pas pour être avec n'importe qui, c'est pour être avec ton mari ou avec ta femme. Une femme qui a de la misère à se contenir, elle aussi, c'est comme il y a des hommes qui ont de la misère à se contenir, mais qui se marient, puis ça vient de régler l'affaire, qui font les choses avec leur conjoint, puis qui laissent faire le reste du monde tranquille. Tu peux vivre une vie pleine de bonnes œuvres dans le public, puis en privé que ta femme, là tu t'arranges avec elle dans l'entente, comment est-ce que vous fonctionnez avec les deux. Dans 1 Timothée 5, 11, ça nous parlait justement que les veuves, quand ils sont rendus à un certain âge, puis qu'ils sont tombés veuves, ils pouvaient être inscrits sur le rôle de l'Église, puis être supportés par l'Église. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pension de veuve. Fait que c'est l'Église qui payait pour les veuves. Mais là, à un moment donné, dans ces versets-là, ça dit, s'ils ont des familles, que ce soit les familles qui prennent soin des veuves, mais ça dit, dans une clause, là, que Paul y explique tout ça, puis là, au verset 11 de 1 Timothée 5, ça nous dit, « Mais refuse des jeunes veuves. » Parce que ça peut arriver qu'une jeune est tombée veuve. Parce que car, lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier, puis elles se rendent coupables de ce qu'elles violent le premier engagement. Il y a des jeunes veuves qui était attiré par la volupté, par les plaisirs sexuels, encore, parce que c'était pas éteint, là. Rendu un certain âge, c'est éteint. Disons que c'est plus tranquille. Les doses sont moins. Mais quand c'est une jeune veuve, mais il dit, ils sont attirés par la volupté, puis ils se détachent de Christ, ils rompent leurs engagements de s'engager à suivre Jésus, parce qu'ils sont attirés par la sexualité. Fait que les jeunes veuves ne pouvaient pas être sur le rôle de l'Église, puis être payés par l'Église. Puis là, il lui dit, dans le verset 14 du même chapitre, dans 1 Timothée 14, « Je veux donc que les jeunes se marient. » Les jeunes veuves, qui se marient. Qu'elle ait des enfants, puis qu'elle dirige leur maison, puis qu'elle donne à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Quand tu es une jeune veuve, puis tu dis, oh, ben moi je vais rester veuve, mais là elle est en cours animée de ses plaisirs sexuels, puis là elle commence à sortir avec un puis avec l'autre, mais elle est déjà détournée de son engagement d'avec Christ, puis elle est en train de suivre Satan. Comment est-ce qu'il y en a, ça, il dit ça pour les femmes, mais il y a autant des hommes aussi, c'est la même affaire. Des jeunes qui sont veufs, puis encore des passions sexuelles, mais qui se marient, qui se remarient, qui refassent leur vie, ils sont veufs, qui restent pas dans cette position-là parce qu'ils vont donner l'occasion aux gens de médire. Parce que quand un jeune ou une femme veuve qui est jeune, puis un homme veuf qui est jeune, ils veulent travailler pour Dieu, ils s'en vont parler du Seigneur, ils sont tout seuls, ils sont veufs. Ils rentrent dans une maison, puis il y a une femme qui est là. Qu'est-ce que le monde va penser? Il ne pensera pas qu'il est en train d'aller l'évangéliser, il va penser qu'il est allé se servir. Fait que ça donne des occasions au monde de médire. C'est ça que ça nous dit dans ce passage-là. Qui se marie, qu'ils refassent leur vie, qu'ils aient des enfants, puis tout ça, puis ça donnera pas l'occasion à l'adversaire, une occasion de médire. Ça, c'est de compter des menteries, ça. De rapporter des sujets. Puis parce qu'il y en a qui se sont détournés pour suivre Satan. Quand on parle du rôle de la femme, qui est un ministère important dans l'Église, puis dans la vie de couple, dans le foyer, parce que l'homme peut pas fonctionner sans une femme. En général, là, pauvre lui, il a besoin d'une femme. C'est une bénédiction de Dieu d'avoir une femme. Celui qui trouve une femme trouve une perle, que la Bible dit. C'est une bénédiction de Dieu d'avoir une femme. Si on n'en a pas, mais on peut prier Dieu que Dieu nous guide pour en avoir une. C'est dans le plan de Dieu qu'on se marie. Puis c'est un ministère devant Dieu d'avoir un rôle de femme qui est conforme à la parole de Dieu. Dieu a établi dans le couple, quand tu es une femme, il a établi une règle pour l'autorité. C'est Dieu qui a installé ça, qui a créé l'homme, qui a créé la femme, secondé l'homme, puis qui a mis l'homme chef de la femme. Il en parle dans 1 Corinthiens 11, j'en ai parlé à propos de l'homme, de ce verset-là, mais là j'en reparle pour le côté de la femme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, ça veut dire que les femmes pouvaient prier, pouvaient prophétiser, la tête non voilée déshonore son chef. Là, ça dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme, mais que la femme, pour prier ou prophétiser, elle doit être voilée. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. Puis si elle n'est pas voilée, elle déshonore son chef. C'est un déshonneur pour son mari qu'une femme ait les cheveux courts, puis qu'elle se mette à prier, puis à prophétiser. Il dit, c'est comme si elle serait arrosée. Puis car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'était une règle biblique, le voile, dans ce temps-là, puis comme ça l'est encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu d'autres évangiles d'écrits pour dire « j'ai plus besoin de pratiquer ce passage-là ». Ça, je t'ai dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, les versets 3 à 6. Maintenant, au verset 15, Paul y explique une vérité, « mais c'est une gloire pour la femme d'apporter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile ». Fait que, selon la Bible, selon l'enseignement de ce passage-là, quand t'es marié, t'es la femme de ton mari, ton mari est le chef de la femme, puis ça c'est biblique, comme Christ est le chef de l'homme, puis l'homme, c'est un déshonneur pour l'homme, pour son chef, qu'il ait les cheveux longs, c'est ce que ça dit dans le passage, puis c'est un déshonneur pour la femme d'avoir les cheveux courts, elle doit se laisser pousser les cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Fait que Dieu a établi cette règle-là comme signe de l'autorité qu'on dépend. Puis lire 1 Corinthiens 11, puis lisez-le au complet, puis vous allez voir que c'est à cause des anges qu'on doit avoir une marque de l'autorité dont on dépend. Puis les anges, on le sait, que le monde d'aujourd'hui est soumis aux anges. C'est les anges qui exercent les jugements de Dieu, puis que c'est à cause des anges qu'on doit porter une marque de l'autorité dont on dépend. L'homme dépend de l'autorité de Christ, il doit se couper les cheveux, garder les cheveux courts. Puis une femme, elle dépend de l'autorité de son mari, elle doit garder les cheveux longs, puis c'est à la chevelure qui a été donnée pour voile. On voit aussi que la femme doit vivre d'une manière exemplaire. Le mode de vie d'une femme chrétienne, d'une femme qui fait profession de servir Dieu, doit être exemplaire. Afin, ça peut arriver, que ton conjoint n'était pas sauvé, puis le fait que tu vives d'une manière exemplaire, d'une manière biblique, là, tu vas convaincre ton mari à devenir chrétien par ton mode de vie. C'est important que la femme réalise que c'est important de vivre selon les principes de Dieu. Ça, on voit ça dans 1 Pierre 3, les versets de 1 à 6. Ça nous dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Ça veut dire que ça peut arriver qu'une femme s'est convertie au Seigneur, mais que son mari ne l'est pas. Puis que la femme doit apprendre à se soumettre à son mari et avoir une bonne conduite, qu'une fois qu'elle va vivre sa bonne conduite, elle va gagner son mari à devenir chrétien, parce qu'elle va être une bonne personne, son mari va voir son témoignage, puis son mari va être convaincu que la foi chrétienne est vraie. Ça dit, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Fait que quand une femme chrétienne se soumet à son mari, puis elle se garde chaste, puis modérée, ça veut dire qu'elle couraille pas pour aller voir d'autres gars, puis est réservée pour son mari, puis elle s'occupe de son mari, ça fait plaisir au Seigneur, c'est le plan de Dieu, puis l'homme aussi va être content de sa femme, puis va être fier de sa femme, que sa femme est chaste, est réservée, puis est consacrée au Seigneur, puis elle vit d'une manière qui plaît au Seigneur. Là, ça le dit encore de ne pas avoir les parures extérieures qui consistent dans les cheveux tressés, puis les ornements d'or, puis les habits qu'on revêt, mais d'avoir une parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La femme doit apprendre à vivre dans un esprit doux et paisible, puis dans une pureté. Quand la femme chrétienne s'engage à servir son ministère de vivre d'une vie de sainteté, d'une vie d'esprit doux et paisible, mais ça c'est un grand prix devant Dieu, c'est de même que les maris vont être gagnés pour accepter Jésus. C'est fort, hein? C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes. Parce que le rôle de femme, une femme de Dieu, c'est un ministère important, puis dans ce temps-là, dans l'Ancien Testament, ils les appelaient les saintes femmes. Puis dans le Nouveau Testament, c'est encore la même chose. Ça dit, on va le voir dans ce passage-là. C'est ainsi qu'espéraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, puis l'appelait son Seigneur. Il dit, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Fait que le fait d'imiter un rôle comme Sarah, qui était la femme d'Abraham, qui appelait son mari Seigneur, puis elle respectait, puis elle marchait dans une crainte de Dieu, puis elle marchait dans l'obéissance à la volonté de Dieu, puis elle servait son mari dans la pureté, puis dans la chasteté, puis dans tout ce qui est les bonnes qualités chrétiennes. Ça plaît à Dieu, puis Dieu appelle ça des saintes femmes. Puis il dit, c'est d'elle, de Sarah, que vous êtes devenues les filles. Les femmes qui exercent le ministère de femme dans la pureté, puis dans tout l'esprit doux et paisible, toutes les qualités que je viens d'énumérer, sont appelés devant Dieu des saintes femmes. T'es une femme consacrée à Dieu. C'est important pour Dieu que Dieu ait des femmes à son service en train d'essayer de gagner leur mari puis de servir le mari comme s'ils seraient en train de servir le Seigneur. Puis les femmes plus âgées, je vais finir avec ce dernier passage-là, ils doivent continuer à être des modèles pour les autres. Et doivent partager leurs connaissances aux autres. Les femmes plus âgées doivent apprendre aux autres femmes des choses qui sont bibliques dans Tite 2, le verset 3. Ça dit que les femmes âgées, autrement dit, sont encore dans le ministère, les femmes âgées. Ils doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça parle de l'habillement encore. De pas être habillé d'une manière impudique. Fait que même si la personne est âgée, elle fait encore attention à son habillement, puis elle cherche pas les ornements, puis les bijoux, puis tous les habits somptueux. L'extérieur qui convient à sainteté, puis elles sont pas médisantes, sont pas à donner au vin, parce qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Ça veut dire que les femmes âgées doivent être capables d'aider les jeunes femmes à donner des bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Fait que les femmes plus âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Autrement dit, t'apprends aux jeunes femmes à être dans le ministère de femmes, puis d'aimer ton mari, puis tes enfants, puis de prendre soin de ta famille. C'est un ministère devant Dieu de prendre soin de ta femme. Mais les femmes plus âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, puis à être soumises, puis toutes les avoir et les qualités qui sont bibliques. Puis il faut qu'ils soient, les personnes âgées doivent être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que si les femmes se rebellent de l'autorité de leur mari, puis là, ils se mettent toujours à crier et à critiquer sur tout ce que le mari fait, mais sont en train de faire le contraire de la volonté de Dieu, puis ils ne gagneront jamais le numéro au Seigneur, puis ils ne sont pas en train de faire le rôle de femme que Dieu s'attend d'elle. Si vous voulez servir Dieu dans le ministère que Dieu vous appelle, faut qu'on apprenne, nous les hommes, faut apprendre à être des vrais hommes, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, puis que les femmes doivent apprendre à être de vraies femmes. Il est important que tous apprennent à être leur rôle, parce que c'est Dieu qui nous a créés dans ce rôle-là. C'est Dieu qui m'a mis dans mon corps d'homme, c'est Dieu qui vous a mis dans votre corps de femme. Dieu vous a confié un ministère de femme, comme qu'il nous a confié un ministère d'homme. Puis il faut que chacun vive son rôle, pas parce qu'on cherche nécessairement à avoir les meilleurs mérites. La raison, la vraie raison pourquoi que c'est important que je vive mon rôle d'homme, puis que les femmes, c'est important qu'ils vivent leur rôle de femme, c'est afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que s'il y a du monde qui nous regarde aller et ils disent « c'est ça des chrétiens », ils vont envoyer promener Dieu. Ils vont envoyer promener la parole de Dieu parce qu'on ne vit pas de façon à les attirer ou les amener au Seigneur par notre bon exemple, par notre bonne manière de vivre. Et tiens, amen.
Amen.
On va prier. Seigneur, je viens te remercier pour ta parole qui est vraie. Puis je te remercie, Seigneur, de nous révéler ces choses pour le sujet du rôle de la femme, comme du rôle de l'homme, comme chacun de nos ministères, Seigneur. Mais le ministère important que souvent est négligé, Seigneur, c'est le de mari puis de femme. Je te demande, Seigneur, de nous donner ta sagesse, ta révélation. Nous donner de vivre ce rôle-là avec sainteté, avec pureté, qu'on cherche pas l'apparence, mais qu'on cherche à vivre dans un esprit doux et paisible, puis un cœur qui est conforme à ta parole, afin que la parole de Dieu soit pas blasphémée, afin que nos conjoints puissent venir au Seigneur, nos enfants puissent venir au Seigneur. Fait qu'on remet nos ventres entre tes mains, Seigneur, pour nous changer, nous transformer, pour que tu continues ton œuvre dans nos vies, pour mettre tout dans le nom de Jésus. Amen.